maintenant, en direct du Salon du Jeu de Société de Paris, notre envoyé spécial vous ramène un bon podcast.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Sophie Gravel. Bonjour Sophie.
Salut monsieur.
On est sur le Salon du Jeu de Société de Paris et une des sorties toutes fraîches de Philosophia, c'est le fameux 1960 dont on parlait depuis longtemps. C'était dans les cartons depuis combien de temps ce jeu-là ?
En fait, nous, ça fait à peu près un an qu'on a décidé qu'on allait faire le jeu. Quand il est sorti aux États-Unis, à partir du moment où on est entré en contact avec l'éditeur original, qui est Z-Man Games, on a décidé de faire ce jeu-là. Entre-temps, est arrivée pandémie entre les deux, et finalement, pandémie s'est réalisée plus vite parce que c'est un moins gros travail de francisation, si tu veux, que celui-là. Et 1960 a demandé beaucoup, beaucoup de travail.
Alors justement, 1960, donc c'est 1960 Kennedy contre Nixon. C'est un jeu à l'américaine, c'est-à-dire que le thème est super méga présent.
Ah, absolument, tu ne peux pas... En fait, le thème est tellement présent dans cette histoire-là, parce que c'est une course à l'élection, finalement, de 1960. Et sur le salon, toute la journée d'hier, on disait que le jeu était absorbant. Et on s'est fait corriger quelquefois pour dire que ce qui était absorbant ici, c'était les salopins ou les salpins. Je sais pas quoi.
Les
papiers essuie-tout.
Les
sopalins. Merci, salopins. Sopalins. Et que finalement, non, il fallait dire que le jeu était immersif.
C'est le vocable officiel, ouais. C'est immersif.
Alors, c'est immersif, c'est un jeu qui va durer, on dit 2 heures, c'est de 1h30 à 2 heures, c'est vrai, mais c'est une fois que tout le monde maîtrise. Et avec les explications, une fois qu'on est parti, la première partie dure 2 heures, 2h30 comme il faut. Mais les gens sont tellement immergés dans le jeu que... on s'en rend pas compte. On a vraiment l'impression d'être en train de faire la course à la présidence des États-Unis.
Oui. Ben, parce que le plateau, c'est un plateau qui représente les États-Unis avec tous leurs États. Et le jeu est basé sur un nombre assez important de cartes qui fait qu'on doit prendre des décisions continuellement. Est-ce qu'on peut brosser un peu, dans la grande ligne, la mécanique du jeu?
Oui, en fait, c'est un jeu qu'on appelle... Je sais pas, j'ai pas jamais entendu de traduction de ce terme-là, mais on dit que c'est un card-driven game. Ça veut dire que le jeu est mené par le jeu des cartes, par le texte des cartes, par les événements qui sont présentés par les cartes. Donc c'est un jeu de cartes avec un grand plateau. Et toutes les cartes représentent tous les événements ou les faits historiques qui sont arrivés durant cette course-là.
Oui, c'est ça. Il y a une recherche dans ce jeu-là, donc on parle de thème, c'est que ce sont vraiment... En fait, on peut apprendre, on peut rencontrer l'histoire à travers ce jeu-là aussi, puisqu'en fait, les cartes reprennent des événements historiques qui se sont réellement passés, et on peut les rejouer en essayant peut-être, pour Nixon, de les reprendre en sa faveur.
Oui, exactement. Et non seulement... Il y a eu un travail colossal de recherche qui a été fait pour développer ce jeu-là. Par exemple, si tu regardes chacune des cartes, à la photo en noir et blanc de l'événement en question qui a paru dans les journaux à ce moment-là. Et donc, vraiment, tu peux retourner et vivre de façon très collée à la réalité ce qui s'est passé pendant cette course-là. Donc, en gros, la façon dont ça fonctionne, il y a un joueur qui sera Nixon, il y a un joueur qui sera Kennedy. On s'assoit de chaque côté du plateau. Et les États-Unis sont séparés divisés par les 50 États. Et vous retrouvez la situation de départ qu'il y avait 9 semaines, parce que la course à la présidence a duré 9 semaines, à peu près. Hein? Et on part avec la situation telle qu'elle était 9 semaines avant l'élection.
Cette situation, elle est représentée par, justement, des cubes d'influence, en fait, qui sont placés dans chacun des États.
Exactement. Donc, il y avait, à l'époque, au départ de la course, il y avait des États qui étaient plus... qui étaient plus près de Kennedy et d'autres qui étaient plus près de Nixon. Et donc, par exemple, Kennedy commence au Massachusetts. Il va commencer sa course-là. Et donc, le pion du candidat sera pour Kennedy dans l'État du Massachusetts. Et donc, ça reflète vraiment ce qui s'est passé. Et donc, au cours de la partie, à chaque tour, vous allez recevoir 6 cartes en main. Et ces cartes-là, vous avez 2 façons de les utiliser. Soit vous utilisez, vous lisez le texte et il y a un événement qui s'est produit et vous utilisez l'événement pour vous ou contre l'autre. Hein? Ou, ça c'est très simple, cette mécanique-là, elle est simple, ou vous utilisez la carte, elle a des points, ce qu'on appelle des PC, des points de campagne. Alors, chaque carte a entre 1, 2, 3, 4 et 4 points de campagne. Et ces points de campagne-là, vous les utilisez, pour soit faire campagne dans un État qui vous appartient, que vous voulez renforcer, soit dans un État qui appartient à l'autre candidat et que vous voulez... Vous voulez diminuer l'impact, on va dire ça comme ça. Soit aussi, vous pouvez utiliser... Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser les points de campagne pour faire de la publicité. Donc, il y a 4 zones sur le plateau, nord, sud, est, ouest, où vous pouvez investir dans la publicité. Et ce que ça va vous permettre, c'est qu'à chaque fois que dans les tours subséquents, vous allez vouloir faire campagne dans les régions qui sont affectées par cette publicité-là, ben vous allez nécessairement bénéficier de la publicité que vous auriez faite, comme dans la vraie vie.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des vérifications qui, normalement, doivent être faites quand vous arrivez dans un État qui est contrôlé par votre adversaire. Si vous avez déjà l'appui des médias, on ne doit pas faire cette vérification-là, et donc on risque de pouvoir plus déstabiliser son adversaire.
Exactement. Et tu peux aussi utiliser tes points de campagne pour influencer les enjeux. Alors, il y a 3 enjeux majeurs dans le jeu qui s'appellent la défense, l'économie et les droits civiques. Excuse-moi, je lisais à l'envers. Et les droits civiques. Et on peut aussi faire campagne et utiliser ces enjeux-là, dépendamment de ce qui est le plus important pour la population, et faire bouger l'influence de ces enjeux-là et qui te seront bénéfiques ou finalement qui vont se retourner contre toi dans la partie.
Et parce que ces enjeux se retrouvent à un certain moment dans une phase de débat. Donc le jeu se découpe en 9 tours puisqu'on a 9 semaines, hein, c'est un tour par semaine et dans chacun des tours il y a 7 phases. À la 6e semaine il y a un débat et donc ces enjeux-là vont se débattre à coup de... Mais comment est-ce qu'on fait ce débat?
C'est avec les cartes que tu auras à chaque tour. Tu auras 6 cartes entre les mains. Tu vas en jouer 5, à peu près, parce qu'il y a des exceptions. Et il y a une carte que tu vas mettre de côté dans ta stratégie de campagne. Et tu vas faire ça pendant 5 tours. Et à la phase des débats, tu vas reprendre les 5 cartes que tu auras mis de côté dans ta stratégie de campagne. Et c'est avec ça que tu vas livrer la lutte aux enjeux, si tu veux. Et donc, celui qui va réussir à accumuler le plus de points de campagne, la somme de 2 cartes de points de campagne du côté de d'enjeu qui est le plus important pour lui, va remporter cet enjeu-là et aura des bonus qui vont s'appliquer.
Alors, il y a un mécanisme de gestion du hasard qui est assez intéressant. C'est que, en fait, il y a un petit sac en tissu dans lequel il y a des cubes de sa couleur. Et donc, il y a cette logique d'initiative ou de vérifier quel est l'appui des états qu'on a en simplement tirer les cubes et de voir quelle est si notre couleur ressort, ben, c'est qu'on a l'initiative. Ça, c'est aussi une mécanique qui permet de gérer le hasard et d'influencer le hasard dans le sens où il y a moyen de rattraper avec les points de campagne des cubes qu'on va mettre dans le sac. Et donc, si on joue bien, il y aura une majorité de notre couleur dans le sac. Et donc, c'est une gestion du hasard qui est intéressante aussi. C'est nouveau, ça.
En fait, ça fonctionne. L'idée en arrière de ça, c'est que c'est comme l'idée contemporaine des sondages. Alors, quand on fait une campagne électorale, maintenant, on a des sondages qui nous appuient pour un enjeu, qui nous appuient dans un État, qui nous appuient en général dans la population. Et le sac politique, c'est ce qu'il représente, c'est le sondage. Et donc, quand vous allez vous présenter au Colorado pour faire une campagne, bien, vous avez un certain nombre d'appuis au départ au Colorado ou pas. Donc, par exemple, dans le cas présent, le Colorado, au départ, c'est un État à Nixon. Et donc, quand Kennedy va se présenter dans le Colorado, au départ, ça va être un État qui va être contre lui. Mais par contre, il y aura livré bataille ailleurs. Et ce qui va lui avoir permettre de mettre des cubes dans le sac, qui va représenter, si on veut, une faveur. Et quand il viendra faire campagne au Colorado, il va piger des cubes d'initiative dans le sac. Et il y aura, par exemple, si sa carte lui dit qu'il a 3 points de campagne, il devra sortir du sac 3 cubes. Ça ne veut pas dire que tous les cubes seront de sa couleur. Il pourra avoir des cubes à Nixon qui vont sortir. Et ça veut dire que pour cette campagne-là, ce qui appartient à Nixon, bien, il l'aura contre lui. Et le sac, de la façon dont le jeu tourne, représente vraiment d'un tour de jeu à l'autre ce que l'ensemble de la population américaine pense d'un candidat ou de l'autre. Et ça, cette mécanique-là, effectivement, c'est tout frais.
C'est du neuf. Le jeu se termine le jour de l'élection. Ça se matérialise comment, ça?
En fait, c'est très, très simple. C'est que rendu au jour de l'élection, une fois que tous toutes les cartes ont été jouées dans la phase 8, bien, on compte. Et chaque appui qui aura été retenu pour chacun des États de ton côté, c'est celui qui gagnera l'élection. Donc, si un candidat a 250 voix et l'autre en a 160, bien, c'est celui qui en aura 250 qui va remporter. C'est comme dans la vraie vie, finalement. Et cependant, il y a une chose bien importante, c'est qu'il y a des États qui comptent, qui ont un poids plus important dans l'élection, tout comme dans la réalité. Par exemple, celui qui va avoir gagné l'élection dans la Californie va remporter 32 points, et celui qui aura gagné dans le Delaware en aura 3. Donc, il est tout à prévoir que le combat va se livrer dans les États les plus importants. Donc, la Californie, la Pennsylvanie, New York sont des États qui sont vraiment où vont se livrer des luttes. Mais, et donc, c'est ça. Et donc, à la fin le jour de l'élection, on cumule non pas les cubes qu'on a réussi à mettre sur chacun des États, mais le total de voix que rapporte chacun des États.
Oui, et on a vu des parties aussi où, justement, il y avait un des joueurs qui avait énormément de tuiles représentant les États dans lesquels il était majoritaire. L'adversaire en face de lui en avait beaucoup moins, mais il avait les plus importants, et donc c'était bon pour lui.
Exactement. Et moi, ça, c'est pour ma petite histoire personnelle, c'est que j'habite au nord des États-Unis. On est soumis aux élections américaines. J'en ai vu quelques-unes dans ma vie. Mais c'est vraiment après avoir joué à 1960 que j'ai compris comment se déroulait la façon dont se déroulaient les élections aux États-Unis, parce que ça n'a rien à voir avec la façon dont ça se fait chez nous au Canada. Et donc, cette façon-là de compter les États, est-ce qui est plus pesant, est-ce qui est le moins pesant dans le vote, ça, c'était vraiment une découverte pour moi. Et à cause du jeu aujourd'hui, je suis vraiment capable de comprendre. Ça a l'air étrange, mais c'est vrai. Et comme on travaillait sur 1960, au même moment où se déroulait l'élection américaine avec Barack Obama, j'ai été capable moi-même de suivre mieux comment ça se passait avec, notamment ça, l'importance des États qui avaient le plus de poids dans l'élection.
Un autre avantage du jeu aussi, c'est que le placement de départ vous oblige à aller mettre des tuiles sur les différents États. Et pour ceux qui ne connaissent pas la géographie américaine, c'est déjà un gros challenge.
Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est d'abord un jeu éducatif. Et au départ, à la mise en place, il faut réussir à placer des jetons sur chacun des endroits. Et là, juste de savoir que l'Oklahoma est au sud du Kansas, c'est déjà pas mal.
Ça peut aider dans un cocktail.
Oui, c'est ça. Exact, exact.
Alors, on l'a dit, c'est un jeu à deux joueurs qui a une durée de, allez, on va dire 2 heures. Ça, c'est vraiment très neuf chez Philosophia. Il y a une prise de risque là-dedans.
Oh, il y a deux prises de risque, à mon avis. La première, c'est que, je l'ai dit, c'est de loin le jeu le plus joueur qu'on a fait. Et pour vous, plus joueur, je pense qu'il faut traduire ça par le plus geek. Ça veut dire le plus... dont la règle et l'approche est le plus difficile, disons ça comme ça. Et s'adresse à un public, disons, très averti, disons. Cependant, une fois qu'on y a joué, une fois qu'on a appris la mécanique, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut investir dans la règle et dans le temps pour bien maîtriser le jeu. Bon, alors le premier risque, ça a été ça, c'était de faire pour la première fois un jeu qui était plus... comment vous dites ça? Plus touffu. Plus touffu.
Voilà.
C'est un jeu plus touffu. Oui, donc c'était le premier risque. Et le deuxième, c'était que le jeu sort beaucoup plus tard que sa version originale. La première édition de Z-Man, si je ne me trompe pas, on va regarder, elle est sortie en 2007. Non, ça, c'était la deuxième édition. Donc, parce qu'il y a eu une version corrigée. Donc, elle a dû sortir fin 2006, début 2007, et nous, on aura publié en avril 2009. Donc, le deuxième risque vient du fait que, comme c'est un jeu très joueur, très touffu, eh bien, les joueurs, les gros joueurs, pour la plupart, beaucoup en auront déjà acheté de la version originale. Et donc, le risque, c'est de publier quelque chose plus tard avec un décalage comme ça et de se dire qu'il y aura suffisamment de gens que ça intéressera. Dernièrement, j'avais une discussion, on va appeler ça comme ça, sur un forum où les gens me disaient, ben, chez Philosophia, vous prenez aucun risque. Puisque vous éditez des jeux qui sont déjà édités et que il n'y a pas de risque à avoir testé un jeu, on sait qu'il est bon et puis on le traduit, on le publie. Mais c'est totalement faux. Parce que, justement, dans le cas de 1960 est très bien. C'est pas parce que le jeu était très bien qu'à partir du moment où nous, on le publie, qu'il y a encore un public suffisant pour permettre à une version française d'exister. Et donc, c'était ça le deuxième risque. Et l'autre, mais tu sais, même quand on publie en même temps, en simultané avec les éditions originales, les jeux, on les choisit sur l'envoi d'une règle, sur une maquette. Et donc, il n'est pas publié, on ne sait pas ce qu'il va avoir l'air, on ne sait pas s'il va fonctionner, mais on y croit. Donc, on décide d'y aller avec le partenaire qu'on a. Donc, de dire que Philosophia ne prend pas de risque.
Je crois que l'édition est un risque en soi.
Bien sûr, il y a toujours le risque de tirage pour peu importe qui, ça c'est sûr. Mais oui, c'est un double, dans ce cas-là, c'est un double risque. Mais écoute, j'ai passé 12 heures sur le kiosque de Philosophia hier. On avait des boîtes et on s'est dit comment on va faire pour faire tourner ça. C'est tellement long à expliquer. Et finalement, ça a été très, très bien. Toutes les boîtes qu'on avait apportées ont été jouées toute la journée. On avait des animateurs extraordinaires qui ont dû se coucher avec un énorme mal de tête. Mais non, ça se passe très, très bien et la réponse est excellente.
Il n'y a plus qu'à s'y mettre. C'est un jeu de Christian Léonard et de Jason Matthews. Et le design graphique, c'est Joshua Kappel. Merci beaucoup, Sophie.
Avec grand plaisir, toujours.
Et à bientôt.
À bientôt.
Merci de votre audience. Merci, chers auditeurs. Et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.